RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Merci de votre fidélité. 3 heures de débat et de liberté d'expression. Avec autour de la table aujourd'hui un entrepreneur, Emmanuel De Villiers. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
L'éducateur Abel Bouilly. Salut Abel.
Salut les amis.
Et puis la professeure d'histoire géo, Barbara Lefebvre. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous. Ça fait plaisir de revoir ce studio. Alors, mais le public nous manque.
Alors rappelons que nous avons changé de studio. Nous sommes sur ce qu'on appelle le grand plateau de BFM et
ouais,
d'RMC, le plateau 1. Car notre plateau au bout du couloir est en travaux. Donc là, on a eu le droit à ce grand plateau qu'on a connu, Barbara, tu te souviens, lorsqu'il y avait du public.
Ah, c'était sympa.
C'était plusieurs années ici. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, il est, hein, Emmanuel.
Une certaine solennité.
Oui, ça change tout. La table, t'as vu, c'est une table un peu poutinesque.
Voilà,
un peu
la poutine,
un très grand.
Oui, mais il fallait ça pour le grand Truchot.
Il faut parler un peu plus fort aussi.
Bon, de quoi va-t-on parler? Je vous propose aussi de rentrer dans le vif du sujet, parce que le gouvernement souhaite rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les professionnels de la santé, c'est-à-dire pas seulement les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes, les étudiants en médecine, et certains commencent à dire attention à ma propre liberté. En fait, le gouvernement veut suivre un avis qui a été émis par la Haute Autorité de Santé, qui se dit favorable à cette mesure, qui serait étendue aussi à tous les personnels des établissements médico-sociaux en contact avec des personnes âgées, qui, on le sait, décèdent en nombre chaque année à chaque épidémie de grippe. L'obligation vaccinale se justifie au regard de l'ampleur du fardeau sanitaire que représente la grippe et du risque augmenté de sa transmission aux personnes soignées ou hébergées. La grippe, cet hiver, a tué 12 700 personnes, elle coûte 1 à 2 milliards d'euros chaque année. Elle pèse donc fortement sur notre système de soins. Le ministère de la Santé précise qu'aucune sanction ne sera appliquée pour la première année d'application de ce dispositif. Est-ce qu'il faut effectivement une obligation vaccinale pour tous ceux qui nous soignent? Le 32-16, vous êtes concerné, appelez-nous pour venir en débattre. Emmanuel De Villiers.
Non, moi je pense que c'est une prescription qui est excessive. On sent l'arrière-goût du Covid en sous-texte avec cette volonté de tout régenter. Encore une dépense qui n'est pas nécessaire au moment où on est en faillite.
Non, bah, c'est la grippe, c'est un coût aussi. Hein.
Oui, mais c'est trop de réglementation. Quand on est soignant, c'est un acte personnel, c'est un engagement de sa vie. On n'a pas à subir quelque chose qui vient s'ajouter à ces contraintes professionnelles.
Et quand on est soignant, on n'a pas aussi à transmettre des maladies aux personnes soignées.
Oui, mais la justification médicale est très ténue. C'est un peu tiré par les cheveux. Si c'était vraiment légitime, il y a longtemps que ce serait en place.
Alors déjà, elle est fortement recommandée. Déjà, dans la pratique, beaucoup de soignants se vaccinent avant l'épidémie de grippe. Abel Bouilly, est-ce qu'il faut aller vers une obligation?
Le message est calamiteux parce que ça veut dire que l'État ne fait pas confiance aux soignants. Et je suis désolé, quand un étudiant s'engage dans des études pour les métiers de la santé, il ne se dit pas que l'État va lui rajouter des injonctions tout au long de sa carrière. Donc pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas été mis en place il y a 20 ans, il y a 30 ans? La grippe tue chaque année. Alors c'est vrai, on peut dire qu'il y a plus de personnes âgées qu'avant et qu'on va vers un vieillissement de la population. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux gens? Après, on va se plaindre qu'il y a un État nounou, qu'on est trop dépendant de l'État. Mais l'État est en train de tout régenter. Et en plus, il donne une épée de Damoclès. Vous avez un an pour vous conformer. Sinon, quelles seront les sanctions? Moi, j'aimerais bien voir la liste des sanctions. On va révoquer des médecins, on va révoquer des aides-soignants, des accompagnants. Donc non.
Alors qu'on en manque.
Il faut laisser la liberté. Vraiment, c'est important.
Oui, mais la liberté, c'est une chose. Après, protéger les soignés, c'est quand même vital.
Mais évidemment.
Et donc, si tu vas à l'hôpital, déjà, à l'hôpital, tu peux attraper ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Mm-hmm. Si en plus, tu attrapes la grippe, parce que finalement, la personne, pour question, on ne sait pas d'ailleurs pour quelle raison, elle ne veut pas se faire vacciner, il faudra le savoir, mais il ne se vaccine pas, excuse-moi, quand même, tu l'as mauvaise.
Donc on assume de ne pas faire confiance au personnel de santé, et on assume de dire qu'ils sont irresponsables. Bah oui, c'est ça le message.
Tu as justement. Bah
est-ce que c'est pas irresponsable de pas se vacciner? C'est surtout ça.
Tu as à juste titre évoqué la question des infections nosocomiales. Alors, la Haute Autorité de Santé donc s'inquiète de cette question de la grippe, mais les maladies nosocomiales, c'est entre 2,4 et 6 milliards d'euros par an de coûts pour la société. C'est 750 000 infections par an. D'accord. Donc là, on voit bien ici que, alors on sait que dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'efforts ont été faits. On le voit d'ailleurs même quand on va à l'hôpital, ils ont des indices qui montrent le niveau de maladies nosocomiales déclarées, etc. Mais enfin, ça c'est un vrai, une vraie épine dans le pied aujourd'hui du monde soignant, parce que ça induit une prise en charge parfois hospitalière qui rallonge le séjour. C'est aussi des maladies chroniques, parce que ça fait 4000 morts par an, les maladies nosocomiales, donc c'est quand même énorme. Mmh. Parce que vous rentrez pour, je dis n'importe quoi, moi, une opération de la cheville, vous repartez avec un staphylocoque doré et vous finissez peut-être 5 ou 10 ans plus tard amputé. Bon, donc ça c'est vraiment, je ouais. pense que la Haute Autorité de Santé...
L'un n'empêche pas l'autre.
Non mais d'accord, mais quand on nous dit la grippe elle coûte 1 milliard, les maladies nosocomiales, là vraiment, je veux dire, même quand oui. les soignants se nettoient les mains 50 fois, portent des masques, etc., les maladies nosocomiales sont là aussi.
Ils le font peut-être pas toujours.
Mais là, sur la grippe, excuse-moi, le personnel soignant dans les EHPAD notamment, et les personnels soignants à domicile, ils ont des masques FFP2,
voilà,
ils se lavent les mains.
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'on va les obliger à se
vacciner ? On peut faire confiance au lobby pharmaceutique pour avoir fomenté ce vote.
Pfizer, ça y est.
Attention, l'épisode du Covid est une cicatrice qui n'est pas refermée. Il y a beaucoup de Français qui pensent qu'on a enrichi les laboratoires, et avec une mesure comme ça, vous avez encore des Français qui vont penser que c'est un business.
Mais bien entendu,
on a sauvé des gens, on a coulé la France.
Je fais partie de cela.
400 milliards d'endettement inutile.
C'est pas ça qui a.
Maintenant, on peut plus baisser les carburants à cause de cette folie du Covid.
Non mais alors déjà.
Et je demande les textos d'Ursula qu'on a toujours pas.
C'est pas les vaccins qui ont ruiné la France, là vous mélangez tout.
C'est toute la démarche d'ensemble. Mais les vaccins, c'est des milliards. Hein.
Je ne vois pas en quoi c'est gênant de se faire vacciner. Enfin, c'est anodin, un vaccin contre la grippe. Il y a des millions de gens qui le font chaque année parce que les personnes âgées, dans la très grande majorité, se vaccinent. En quoi, quand tu es soignant,
qu'est-ce que ça peut te faire de te faire vacciner ? Olivier, le principe de la vaccination, c'est si la vaccination est nécessaire. Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes déficientes et âgées.
Exactement.
Mais pas pour le commun des mortels.
Les personnes âgées, elles sont vaccinées majoritairement, les personnes vulnérables également, donc elles vont déjà être en position de moins l'attraper. Si elles l'attrapent, elles auront juste un syndrome grippal. Pourquoi est-ce qu'on veut obliger des gens bien portants, pas vulnérables et pas des personnes âgées à se vacciner?
Et le message que tu envoies, c'est personnel de santé, vous êtes potentiellement des facteurs de transmission, donc vous faites mal votre travail. Parce qu'ils sont responsables, ils portent des masques, ils ont des gants, ils ont des gels hydroalcooliques. Quelqu'un qui fait des études pour être médecin, pour accompagner des personnes, il sait qu'il ne doit pas transmettre la grippe.
Vaccine-toi alors.
Mais non.
C'est quand même plus simple que de porter un masque toute la journée.
Je me vaccine si je le veux. Il faut que ça reste une liberté. Donc la partie du personnel qui veut se vacciner, qu'elle le fasse.
Chaque métier a des obligations. Oui. On demande à un chauffeur de poids lourd de respecter des obligations. Ben, on peut demander à un médecin, et parmi ces obligations.
La différence.
Le vaccin contre la grippe, c'est pas anodin.
Sur le plan de l'organisme.
Et obligation arrive pour colmater.
Donc en fait, j'ai trois anti-vaccins là.
C'est pas une question
c'est pas
de ça.
Je suis vacciné.
Et moi, je suis pas vacciné contre le Covid et j'en suis fier.
Emmanuel Devilliers est un anti-vax.
Pareil. Contre le Covid, mais t'es bien vacciné contre le tétanos?
Peut-être.
Oui. Non mais on est vacciné.
Je suis désolé. On dit obligation, c'est-à-dire qu'on colmate une éventuelle défaillance. Donc qu'on dise quelle est la défaillance du personnel de santé.
Exactement.
C'est qu'on ne leur fait pas confiance, c'est tout.
Ouais, moi je comprends pas vos arguments.
On
t'a donné tous les arguments possibles.
Non, parce que
les auditeurs vont trancher.
Parce que en gros, une personne âgée de 80 ans, c'est pas grave.
Voilà,
qui se fait vacciner, vous dites, c'est normal. Un médecin qui se vaccine, ça devient un problème. Je comprends pas votre logique.
C'est pas une question,
c'est
un problème, c'est qu'il peut le faire ou pas, mais c'est pas lui.
Mais la liberté passe après ton obligation de protéger tes patients.
Mais puisque la personne âgée, elle est vaccinée. Il va pas lui transmettre la grippe, ou s'il la lui transmet, c'est sous une forme atténuée, très atténuée, elle aura un syndrome grippal.
Donc le médecin qui ne se vaccine pas, c'est un meurtrier potentiel alors.
Mais
voilà, c'est ça.
C'est ça le discours.
Moi, si j'apprends effectivement que ma grand-mère, mon grand-père a attrapé la grippe, parce que le médecin qui la soignait n'était pas vacciné, oui, pour moi, ça sera un criminel.
Mais,
bien entendu.
Et pour les maladies nosocomiales.
Et je lui demanderai des comptes.
Et pour les maladies nosocomiales.
Ben, c'est normal.
Et tu penses que même si le médecin est vacciné, la grippe ne peut pas se transmettre?
Ah, bah oui, bien sûr. Il y a moins de risques.
On disait pareil du Covid.
Ah, bah oui,
on disait pareil du Covid.
Julien est avec nous. Il nous appelle du Creusot en Saône-et-Loire. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Vous êtes cadre dans la santé, formateur, c'est ça?
C'est ça, je suis formateur en IPSI.
Est-ce que vous êtes pour cette obligation vaccinale?
Alors moi, je suis plutôt pour, en effet, parce que en fait, déjà, nous, on en parle chaque année avec nos étudiants. Et moi, dans les groupes d'étudiants que j'ai eu, souvent, les facteurs de l'hésitation vaccinale, ils sont assez fragiles. En fait, ils sont souvent mésinformés, manque d'informations. Et il n'y a pas d'argument vraiment concret, en fait, contre l'hésitation vaccinale. Et c'est quand même un premier facteur pour limiter la transmission auprès des résidents dans les EHPAD, etc. Enfin, moi, j'ai vu à l'époque du Covid, enfin, ça a été une hécatombe. Et la grippe, il y a autant de risques.
Mais alors, vous avez entendu l'argument, notamment de Barbara, qui dit oui, mais puisque les personnes âgées sont vaccinées, pourquoi vacciner les soignants?
Alors, les personnes âgées ne sont pas toutes vaccinées. Alors, c'est là où moi je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Il faudrait aussi qu'on impose la vaccination aux résidents. Alors, je parle surtout dans les EHPAD, parce que c'est surtout là où j'ai travaillé.
Oui.
Mais il faut aussi l'imposer aux résidents.
Ouais.
Parce que derrière, il y a aussi. Enfin, nous, pendant le Covid, ce qui a été aussi facteur de transmission du Covid, c'est les familles, par exemple, qui ne respectaient pas les règles, etc. Donc, moi, je suis plutôt pour que ce soit un peu les résidents aussi qui soient vaccinés en parallèle des soignants.
Donc, obligation pour les résidents et pour les soignants.
Ah, tout à fait.
D'où la protection, en quelque sorte.
C'est ça, parce que en fait, nous, on risque quand même de le transmettre, même si le risque est réduit. Mais si la personne l'attrape, enfin, elle l'attrape quand même, quoi. Et du coup, c'est pour elle qu'on le fait. Donc, c'est aussi un sens qu'elle se protège.
Oui, et on pense pas que le type qui a la grippe, il peut en être conscient et prendre des mesures personnelles au lieu d'être vacciné en masse.
Alors, pour l'avoir vécu pendant le Covid, je vous assure, j'ai vu des gens passer par les portes-fenêtres, mentir.
Évidemment, on a rendu les gens fous, évidemment. On leur a interdit d'aller voir leurs personnes âgées dans les EHPAD. On les a interdit de venir aux enterrements. Vous pensez pas que ça a rendu les gens complètement malades?
Et on a débranché des gens trop tôt aussi, ce qui est un autre scandale d'État.
Je suis complètement d'accord, on a rendu les gens fous, mais les gens, il y en a qui connaissent déjà le goût des feutres naturellement, j'ai envie de vous dire. Parce que, enfin, il y a eu des choses, enfin, c'est inadmissible. Quand on sait que la personne, elle est positive, etc., que les gens venaient presque en défonçant les fenêtres pour rentrer dans les chambres, enfin, au bout d'un moment, on leur demandait juste de nous prévenir, on mettait des choses en place. Pour le coup, j'ai été un fervent défenseur des droits des résidents, j'ai limité au maximum les mesures de confinement, etc., dans les EHPAD, on a toujours favorisé au mieux les visites, notamment les personnes en samedi, ont levé toutes les barrières malgré les consignes, mais il y a quand même des gens qui ne respectaient rien.
Oui, bien sûr, mais Julien, on ne vit pas, Julien, on n'est plus au XVIIe siècle. Les gens sont informés, sur-informés, archi-informés.
Sont-ils plus responsables?
Aujourd'hui, la question, à un moment donné, vous êtes toujours aussi, et moi la première, mais toi aussi, à se plaindre de l'État nounou. À un moment, les gens sont informés, les gens sont alphabétisés à 99% dans ce pays, ils peuvent lire les informations, ils sont au courant.
Oui, mais
les gens font des choix éclairés. Arrêtez de toujours penser que les gens ne font pas des choix éclairés. Tu fais le choix éclairé de ne pas être vacciné,
tu prends ton risque. C'est un choix qui ne t'impose pas.
Tu prends ton risque.
Non, parce que le risque, c'est pas le soignant, bien sûr, à 35 ans, il ne mourra pas de la grippe. Non, tu te soignes pas seulement pour toi, tu te soignes aussi pour les autres.
Oui, j'ai compris.
C'est toute la différence.
Mais quand j'aurai 90 ans, si j'ai pas envie de me faire vacciner pour la grippe, fichez-moi la paix et laissez-moi tranquille.
Mais alors, dans ce cas-là, pas dans un EHPAD, pour pas contaminer les autres.
Je resterai chez moi, puis je mourrai toute seule chez moi tranquille.
Personne ne viendra te voir.
Mais Julien, j'ai une question. Vous qui êtes un professionnel de santé, pour étayer votre argument, vous prenez en exemple la période Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, il n'y avait pas eu tout ce confinement et toute cette organisation sociétale, auriez-vous la même position?
Ah oui, complètement. En fait, déjà avant le Covid, moi j'ai déjà échangé avec des collègues là-dessus. Mmh. Parce que j'étais infirmier, après je suis passé cadre, donc j'encadrais dans le service. Et j'encourageais vraiment mes collègues avec l'appui de l'infirmière hygiéniste. Parce qu'on a des infirmières hygiénistes qui viennent avec des données scientifiques prouvées, etc. Et qui viennent expliquer la vaccination, qui viennent aussi déconstruire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont complètement folles qui se racontent. Donc d'où l'information, attention, entre ce que les gens comprennent et ce qui est vraiment dit. Et du coup, j'avais quand même des collègues qui me disaient non, mais au bout d'un certain temps, à force d'arguments, ils me disaient non, mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie. Ben ouais, mais ça, c'est de l'inconscience, quoi, au bout d'un moment. C'est juste parce que t'as pas envie. En fait, il n'y a rien d'argument derrière. C'est juste parce que, ben, j'ai pas envie qu'on me donne un ordre. Ben ouais, mais sauf qu'au bout d'un moment, on a des patients.
Et puis maintenant, avec la loi sur l'euthanasie, le patient, il ne saura plus si c'est le vaccin contre la grippe ou qu'on va le liquider.
Oh. Pour avoir beaucoup travaillé, notamment pour le sujet des soins palliatifs, il ne faut pas non plus faire ce genre d'amalgame.
Au début, c'est pas de l'amalgame, mais à la fin, croyez-moi, ça va tomber. Hein.
C'est une provocation, Julien, vous laissez pas.
Non, mais quand même.
Vous connaissez Emmanuel de Villiers.
Non, mais c'est vrai qu'on fait attention, parce qu'il y a des gens qui prennent pour argent comptant, quoi.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on précise que c'est une provocation. En tout cas, merci Julien. Merci d'avoir appelé au 32-16 depuis le Creusot en Saône-et-Loire. On salue l'ami Didier Giraud qui vit dans votre département. Dans un instant, on sera avec Christian Guillon. Je peux vous dire que ça vous fait beaucoup réagir, ce sujet d'obligation vaccinale pour les soignants. C'est une volonté affichée de la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement devrait suivre et fixer les modalités dans quelques semaines. Est-ce qu'il faut aller vers cette obligation vaccinale pour la grippe, hein, pas tous les vaccins contre la grippe. Oui ou non, le 32-16, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules à 9h22 sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Barbara Lefèvre, Abel Boyi et Emmanuel De Villiers. Toute cette semaine dans les Grandes Gueules, nous vous offrons un séjour de 2 jours pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, au parc Astérix. L'occasion de passer un très bon moment. En plus, on vous offre la nuit d'hôtel, hein, donc 48 heures au parc Astérix. Il y a 50 d'attractions à découvrir, des spectacles pour un été gaulois. C'est très simple, hein, pour remporter votre séjour, vous envoyez le mot parc au 732-16, parc au 732-16, et la gagnante ou le gagnant sera en direct dans les Grandes Gueules tout à l'heure à 11h20. À vous de jouer, à vous de gagner. L'obligation vaccinale pour le vaccin contre la grippe, on y arrive, hein, parce que le gouvernement va sans doute suivre les préconisations de la Haute Autorité de Santé et donc rendre obligatoire le vaccin contre la grippe pour tous les professionnels, médecins, infirmiers, aides-soignants, étudiants en médecine, avec bien sûr une priorité dans les EHPAD, là où il y a des résidents âgés de 75 ans et plus et qui sont bien sûr les plus fragiles. Alors, on voit que les Grandes Gueules sont assez réticentes à l'imposition de cette obligation. Qu'en pense Christian au 32-16 du côté de Toulon dans le Var? Bonjour Christian. Christian.
Bonjour messieurs, dames, et un bonjour particulier à monsieur De Villiers qui avait certainement apprécié l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024.
Ah non, le relancez bien. Pas là-dessus. Oui. Absolument. S'il vous plaît.
On va éviter. D'accord.
Non, surtout pas. Non, on va pas refaire un débat là-dessus. Christian, approchez-vous bien du poste de téléphone.
Je ne peux pas être plus près.
Bon, voilà. Parfait. Est-ce qu'il faut effectivement rendre obligatoire cette vaccination contre la grippe pour les soignants?
Oui, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que les personnes en EHPAD qui en ont besoin. Il y a aussi les personnes en déficience immunitaire comme moi qui ont besoin d'avoir des gens et des soignants qui soient vaccinés. À mon avis, s'ils refusent le vaccin contre la grippe, ils refuseront évidemment le vaccin contre le Covid, ce qui fera un double risque.
Donc vous vous sentiriez en danger d'aller par exemple à l'hôpital si vous savez qu'il y a des infirmières, des soignants, des aides-soignantes qui ne sont pas vaccinées?
Heureusement, moi je sais qu'en infectiologie, tous les soignants et toutes les personnes autour sont vaccinés, je leur ai demandé en tout cas en infectiologie, ouais. Et puis voilà, il le faut tout simplement pour protéger les gens. L'hôpital, la salle d'attente de l'hôpital, ce sont des gens sans masque aujourd'hui, heureusement, et des patients qui risquent effectivement tous d'avoir, de contracter la grippe, qui reste une maladie mortelle tout autant que le Covid. Voilà, n'oublions pas qu'il y a des morts du Covid et de la grippe tout le temps. Et donc, il faut absolument arrêter cette histoire. D'autant plus dans le pays de Pasteur. Ce qui est déplorable, c'est ce manque de conscience de la part des soignants, ce manque de volonté d'aider leurs malades, en fait, finalement.
C'est égoïste?
Voilà. Totalement. Je veux dire, pourquoi ne pas penser que vous avez en face de vous quelqu'un qui a des problèmes de santé, et puis finalement, c'est pas bien grave, de toute façon... il attrapera la grippe, il attrapera une petite grippe, comme disait Madame Lefèvre, Et puis non, il n'y a pas de petite grippe, madame. Il y a une grippe qui risque d'être mortelle.
Non, alors, excusez-moi, Christian. Excusez-moi. Dans la grippe, il y a plein de gens qui disent j'ai eu la grippe cet hiver. Quand vous avez un petit syndrome grippal, que vous êtes juste pas bien 24 heures, c'est pas la grippe. La vraie grippe, elle tape pas à chaque fois. Quand on parle de l'épidémie de grippe, c'est pas à chaque fois la grippe, la vraie grippe. Qui est la vraie grippe qui vous laisse clouer mort pendant 3 jours et vous en mettez 3 semaines à vous remettre. Ça, c'est la vraie grippe.
Elle a tué près de 13 000 personnes.
Maintenant, la question que je voulais vous poser, Christian, est-ce que vous-même, vous êtes vacciné? Êtes-vous vacciné?
Oui, absolument. Je suis vacciné tous les ans contre le Covid, contre.
Si vous êtes vacciné, pourquoi voulez-vous attraper la grippe?
Tout simplement parce que le vaccin n'empêche pas d'obtenir et d'avoir la grippe, d'avoir le Covid.
Voilà, alors, le vaccin n'empêche pas.
Je vais rebondir.
Il sert à quoi?
Puisque le vaccin.
Ça diminue les risques.
Donc, c'est bien ce que je dis, vous attraperez une petite grippe. C'est bien ce que je dis.
Mais c'est-à-dire qu'un médecin vacciné peut vous la transmettre quand même.
Voilà. Le médecin vacciné, vous la transmettez quand même.
Enfin, on réduit les risques, quand même.
Il faut diminuer les risques au maximum possible.
Mais le risque zéro n'existe pas.
On fait rien. C'est bizarre.
Dans ce cas, les médecins vaccinés, ils peuvent ne plus porter de masque, alors.
Mais sur la route, je respecte l'imitation de vitesse. Mais même en respectant l'imitation de vitesse, je peux avoir un accident. Mais enfin, j'ai moins de chances d'avoir un accident en roulant moins vite que si je roulais trop vite. C'est exactement.
Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tous les médecins depuis des années qui ne sont pas vaccinés, ce sont des mauvais médecins. Vous êtes en train de dire tous ces médecins qui ont des dizaines d'années de carrière derrière eux, qui ont sauvé des milliers de personnes.
Ceux qui refusent, c'est souvent les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins. Je crois à 99% se font vacciner.
Donc on est un pays avec.
Ils savent précisément ce qu'est un vaccin.
Christian, vous êtes très crédule parce que vous pensiez au moment du Covid que le vaccin allait être quelque chose de formidable. On a découvert qu'il empêche.
Est-ce que je vous ai dit ça, monsieur de Villiers?
Mais vous avez l'air d'être comme un Mexicain avec des vaccins et un baudrier de vaccins.
Il est malade,
militer pour les vaccins. Le Covid a été une escroquerie. On a fait croire aux gens que ça empêchait la transmission, ça n'empêchait rien. La seule chose, c'est que ça a ruiné l'État et a ruiné la santé de plein de gens avec les effets secondaires.
Tous ceux qui n'ont pas eu le Covid et tous ceux qui n'ont pas eu la grippe, remercient les vaccins et les chercheurs qui ont trouvé
d'ailleurs
les vaccins contre ça.
Merci,
et ça
Christian.
Ça a diminué de toute façon énormément les choses.
Et ça nous a permis de revivre, en quelque sorte. Christian, merci Christian.
Ça ne nous a pas permis de revivre.
C'est juste
que ça a permis à l'État d'arrêter de nous prendre pour des débiles et de nous confiner.
C'est toujours facile.
Les gens qui nous écoutent ne partagent pas le point de vue de Christian. Je me permets de le dire.
Excuse-moi, je ne voyais pas le rapport.
Les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément ton avis non plus.
On va voir la consultation.
Je voudrais qu'on écoute. Merci Christian d'avoir appelé au 3216. Sarah est avec nous. Bonjour Sarah.
Oui, bonjour Olivier.
Vous travaillez dans le secteur sanitaire et social. Vous êtes en reconversion pour devenir infirmière, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc moi, je fais fonction d'aide-soignante, on va dire, dans le domaine sanitaire et social. Et donc, je suis en reconversion et donc j'ai une place en IFSI qui m'attend à la rentrée de septembre.
Est-ce que vous ferez vacciner?
Non. Et puis si la loi passe, je renoncerai à ma reconversion et je retournerai faire du droit, ce que j'ai fait pendant un temps.
Si on rend obligatoire le vaccin contre la grippe, vous arrêtez et vous ne serez jamais infirmière.
Sincèrement, à 90%. Voilà. Il reste. En fait, moi, quand j'ai entendu ça hier, je me suis dit, est-ce qu'ils vont imposer ça aux étudiants? Parce que bon, moi, l'objectif, c'est l'expatriation. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, s'ils n'imposent pas ça aux étudiants, je fais juste mon cursus, ensuite j'arrête et je partirai à l'étranger.
Alors, la Haute Autorité de Santé préconise de rendre obligatoire ce vaccin également pour les étudiants en santé.
Eh ben alors, ce sera sans moi. Et laissez-moi vous dire que...
Je voudrais comprendre, Sarah.
Parce qu'en fait, on a été traumatisés. Parce que moi, je travaille dans la santé avant je fais fonction d'aide-soignante. On a été traumatisés par ce qu'on nous a fait pendant le Covid. Mmh. Et qu'on se demande où est-ce que ça va s'arrêter.
Oui, parce que c'est les mêmes. La Haute Autorité, ils étaient déjà là, c'est les mêmes.
Voilà. Donc, excusez-moi, la Haute Autorité, elle n'a plus aucune autorité, en fait. Il ne lui reste que très peu de légitimité.
Mais là, on parle pas du vaccin contre le Covid.
Aux yeux des soignants.
On parle du vaccin contre la grippe qui est en général assez efficace.
D'accord, mais peu importe. Pour moi, ça doit rester une liberté. Je suis une adulte. J'ai pas 15 ans. Hein. J'ai le droit de voter, j'ai le droit de conduire, j'ai le droit de faire tout un tas de choses. Donc c'est aussi à moi, en mon âme et conscience en tant que soignante, à prendre la décision de me vacciner.
Et si vous transmettez la grippe à une personne malade que vous soignez?
Mais alors déjà, si j'ai la grippe, je suis censée ne pas aller travailler. Voilà.
Vous ne savez pas, vous savez très bien que comme avec le Covid, on peut l'avoir sans symptômes.
Ok, mais par rapport à la grippe, déjà, si on avait ce qu'il faut en termes d'équipement, si on avait ce qu'il faut en termes de personnel, il y aurait déjà aussi moins de risques de transmission, parce que les protocoles, tout à l'heure j'entendais, il me semble que c'était Barbara qui parlait des maladies
nosocomiales
à l'hôpital. Il faut aussi parler de ça, en fait. C'est à peu près du même registre, hein, où les soignants qui ne prennent pas le temps de se laver correctement les mains entre deux patients, etc. C'est tout un tas de problèmes, et pour moi, si on en revient à l'essentiel, c'est une affaire de liberté. Et moi, je ne vais pas me lancer dans un cursus où je vais y donner 3 ans de ma vie pour qu'à la fin, on fasse ce qu'on a fait à une amie, où en fait, pendant 18 mois, parce qu'elle n'a pas voulu se faire vacciner du Covid, on l'a empêchée de démissionner, on lui a interdit de travailler ailleurs, et elle ne voulait pas se vacciner. Donc vous voyez, on a vu
en même temps,
était prêt à aller. En fait.
Ouais, mais moi, si je suis malade à l'hôpital, si j'apprends que la personne qui me soigne n'est pas vaccinée contre la grippe et que j'ai un problème d'infection grave, etc., et que je suis très fragile, moi je demanderais que cette personne ne me soigne plus, c'est normal. C'est parce que vous parlez de votre liberté, mais votre liberté, elle s'arrête quand aussi commence l'enjeu vital de votre patient, quand même.
Ça, ton comportement, c'est ce qu'on appelle un emmerdeur.
Non, mais le serment d'Hippocrate, c'est de soigner à tout prix, c'est pas de.
Elle peut te transmettre d'autres maladies. Elle peut te transmettre, par exemple, la méningite. Il y a un vaccin contre la méningite. Oui. Tu vas demander aussi la vaccination contre la méningite. Personnellement, j'ai fait vacciner ma fille. Non, mais j'ai fait vacciner ma fille contre la méningite parce que je trouve que vraiment la méningite. Aujourd'hui, on a ces vaccins. C'est très bien pour les jeunes, comme le papillomavirus, etc. Mais je suis désolée, il y a des adultes ont des métiers de
n'importe quel adulte.
Mais c'est pas n'importe quel. Mais
on parle de ceux qui sont au contact de gens âgés et fragiles. Et malade.
Ils ont des modes de protection qui s'appellent les masques FFP2, qui s'appellent le gel hydroalcoolique, les gants, tout ce que tu veux.
Tout déjà.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Pourquoi un masque, bretelle. C'est mieux qu'un vaccin.
Mais vous voulez ceinture, bretelle et risque zéro. La vie doit être un tapis roulant tous mourir sans terre, sans jamais être malade. Vous voulez tous mourir en bonne santé. Ils veulent mourir en bonne santé, c'est tout.
C'est facile de dire quand on est en bonne santé.
La phrase de Sarah est extraordinaire. Il faut la donner pour les auditeurs.
Elle est à l'écran actuellement.
Sarah dit : je refuse de laisser mon corps au gouvernement. C'est une affaire commerciale. 2 vaccins payants, le 3e offert.
Mais bien sûr.
Bon, Sarah, merci.
Vous savez, je pense que s'il y avait beaucoup plus de pédagogie, ce serait beaucoup plus bénéfique.
Ça, vous avez raison, sans doute.
Cette façon qu'ils ont de vouloir tout nous imposer. Moi, de façon générale, sincèrement, je n'en peux plus de ce gouvernement. Je n'en peux plus de ce pays où on veut nous obliger à tout, nous contraindre à tout, nous protéger de tout, comme si on était des enfants de 4 ans.
Mais Sarah, ils ont été galvanisés par leur toute puissance pendant le Covid. Pendant un an, ils nous ont tenus comme des bébés.
Quel serait leur intérêt à tout
mais enrichir les laboratoires, Olivier.
Contrôler la population quand tu contrôles la population.
Déjà, l'État veut nous maintenir sous perfusion et après nous dire en même temps
tu devrais écrire la phrase de Paul Éluard, liberté, j'écris ton nom.
Moi,
c'est les mêmes qui trouvent qu'on dépense trop d'argent dans la santé, vous êtes gonflés.
Mon mari aussi travaille dans le secteur de la santé, en fait, ils feront pas ça avec nous. Et sincèrement, on en a marre.
D'accord.
Et en plus, on est en pénurie de personnel. Vaccinez-vous.
Mais c'est quoi la sanction dans un an s'ils ne se vaccinent pas? Il faut que le gouvernement ait le courage de le dire.
C'est des gens qui seront plus en contact avec les malades.
Donc on va empêcher des gens de travailler.
Au lieu de s'arrêter sur les vrais problèmes où les soignants n'arrêtent pas de se plaindre, où on lance des appels à l'aide à n'en plus finir, ils ne se posent pas sur les vrais problèmes, ils nous pondent des trucs, des effets d'annonce qui vont donner l'impression aux gens que l'État s'en a quelque chose à faire de la santé alors qu'on sait très bien que c'est faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est amener à la privatisation de tout. Mais allons-y, en fait.
Merci,
exactement.
Merci Sarah, quand on peut faire compliqué, voilà le gouvernement.
Avec 280 patients, tout un établissement, elle est sur plusieurs établissements, plusieurs services.
Vous avez raison.
En tout, il n'y avait qu'une seule infirmière pour 280 patients et résidents.
Et là, n'empêche pas l'autre.
Ça, on ne va pas en parler. On va nous dire que le problème, c'est parce qu'il y a quelques, il y a quelques soignants qui ne veulent pas se faire vacciner contre la grippe. Excusez-moi, mais c'est aberrant et c'est un don qu'on a dans ce pays en ce moment, c'est de déplacer les problèmes et de nous parler de choses qui ne sont purement et simplement que de la fumisterie.
Ouais, enfin, il y a quand même 12 700 personnes qui meurent de la grippe chaque année.
Est-ce que c'est
quand
à cause des
maladies nosocomiales ?
Guider les vieux, là, ça pose pas de problème, par contre.
Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, on va tous mourir.
Et exact.
C'est comme avec le Covid,
la plupart des gens qui sont morts du Covid, c'était des gens qui avaient des comorbidités et s'ils n'étaient pas morts de ça...
D'accord, ben laissons mourir les gens.
Mais c'est pas ça, mais elle a raison.
Tu es en train de dire que les 12 000 personnes qui sont mortes de la grippe, c'est le personnel de santé qui les a tués.
C'est les mêmes qui veulent...
Pardon, c'est les mêmes qui veulent imposer un vaccin pour les soignants qui militent pour l'euthanasie.
Guillaume est avec nous. Merci Sarah d'avoir appelé au 3216. Bonjour Guillaume. Guillaume de la Marne, du côté de Reims, président d'un centre de santé. Vous avez entendu les arguments de Sarah. Elle est reconversion, elle veut devenir infirmière. Si jamais on l'oblige à se vacciner contre la grippe, elle arrête tout.
Bah c'est dommage parce que bon alors Sarah, moi je pense qu'il faut garder la tête froide, arrêter de faire de la politique et faire de la santé publique. Les professionnels de santé et les infirmières par exemple, on est déjà contraints à certaines vaccinations pour lesquelles le reste de la population n'est pas concerné, l'hépatite par exemple. Donc on a déjà des obligations vaccinales. Dans tous les métiers, il y a sûrement des obligations qui est professionnelle. Voilà, et ça, je veux dire, la vaccination en fait partie.
Vous avez entendu alors, l'argument que développe notamment Abel Boyer qui nous explique en fait ce sont les lobbies pharmaceutiques qui poussent à cette obligation vaccinale.
Oui, alors ça, encore une fois, après, je vais pas, à mon niveau, je vais pas rentrer dans ce schéma où les lobbies pousseraient à droite, à gauche, ça doit peut-être être vrai en partie. Après, moi, j'ai la faiblesse de penser que la plupart des professionnels de santé, y compris la Haute Autorité de Santé, qu'on peut critiquer par ailleurs si on veut, néanmoins, il y a quand même des collèges médicaux de gens plutôt brillants, d'horizons différents, qui s'entendent sur la nécessité vaccinale. Je pense que quand on est professionnel de santé, oui, c'est vrai, on protège nos patients avec des masques, avec plein de, enfin, je veux dire, le lavage des mains, tout un tas de choses.
Vous êtes vacciné, vous, Guillaume, chaque année?
Oui, bien sûr. Moi, je suis vacciné chaque année. Alors, j'ai 50 ans, je commence à vieillir, je suis peut-être un peu plus concerné, mais même avant, par principe, parce que le cœur de notre patientèle est une patientèle de personnes âgées, de personnes fragiles, qu'on essaye d'encourager à la vaccination, pour essayer de couvrir un maximum la population. Mais je crois, voilà, la vaccination...
Vous avez entendu, parmi les arguments qui sont développés, c'est le souvenir du Covid, où on a l'impression qu'on leur a imposé un vaccin qui n'était pas utile.
J'entends qu'il y ait eu, pendant la période Covid, sûrement, une pédagogie qui n'a pas été bonne et qui a braqué une partie de la population sur le principe vaccinal. Il y a eu, sur les plateaux télé, on a tous entendu, nous, on est les soignants, on était sur le terrain, dans nos voitures, pour ceux qui faisaient du domicile, et c'est vrai que des fois, on entendait, de grosses bêtises sur ce qu'était le vaccin, le fonctionnement du vaccin. Voilà, effectivement, un vaccin, ça n'empêche pas d'attraper la maladie. Mais on est là, on touche à la notion de santé publique, c'est-à-dire la responsabilité individuelle au service d'une œuvre collective. Se protéger soi pour protéger les autres, sur un ensemble. Alors, le Covid, on pourrait revenir sur ce qui s'est passé. On peut être d'accord avec certaines décisions et on trouvait des décisions complètement iniques. Voilà, moi, hier soir, j'étais avec des collègues et on se souvenait des attestations, enfin toutes ces choses administratives qui ont été, c'est vrai, sûrement un peu bêtes parfois. Néanmoins, voilà, sur la partie vaccination, l'idée était effectivement de protéger, parce que bon, la société peut-être n'aurait pas accepté. Je suis pas sûr que la société aurait accepté de perdre. On n'a déjà pas accepté en 2003 de perdre des personnes âgées au cours de la première canicule. Je pense qu'il y aurait eu un volume de décès important avec le Covid, et on n'est pas sûr que la société aurait accepté. Donc la société, elle s'est prémunie en passant par la vaccination, qui, pour la vaccination, le confinement, toutes ces mesures qui ont, j'allais dire, permis sûrement de limiter la casse. Ça aurait sûrement pu être mieux avec l'expérience, peut-être qu'il y a des choses qui seraient faites différemment. Mais je crois que sur le domaine de la vaccination concernant les professionnels de santé, garder la tête froide. On parle de notion de santé publique. Alors,
pour vous, c'est normal.
Sarah, j'espère qu'elle entame, je crois, ses études d'infirmière.
Oui.
Bien, j'espère qu'à l'issue de ses études d'infirmière, quand elle aura eu des cours de santé publique, quand elle aura eu des cours d'infectiologie, quand elle aura eu toute cette notion d'approche de pharmacologie, eh bien, peut-être qu'elle aura revu sa position, elle aura été, on l'aura nourri d'informations qui lui auront permis de prendre un peu de recul et de ne plus voir la vaccination comme un geste politique, mais comme un geste de santé publique.
Ok, merci Guillaume, c'est terminé. Les effets secondaires du vaccin Covid, faut pas les oublier quand même.
Merci Guillaume, merci d'avoir été au 32-16. On a demandé à ceux qui nous écoutent et nous regardent sur le compte X des Grandes Gueules de se prononcer. Ah. Obligation vaccinale pour les professionnels de santé, est-ce indispensable ou liberticide? Assez serré, mais c'est le terme liberticide qui l'emporte, 56% contre 44%. On voit que c'est un vrai débat. Dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint à cette grande table des GG pour le OSEF. On s'en fout pas. Tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Deux, 9h46, vous écoutez les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Abel Boyer, l'éducateur, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, et la prof d'histoire géo, Barbara Lefebvre. Nous accueillons Anaïs Sens, c'est le OSEF.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La foule immense à Madrid hier pour célébrer les nouveaux champions du monde qui ont paradé dans la capitale espagnole devant près de 2 millions de personnes quand même selon la presse madrilène. 2 millions dans une ville de 3,5 millions d'habitants. Et ce sans incident majeur. Hein. Quelques petits mouvements de foule, des policiers qui sont intervenus à quelques reprises, ça et là, mais rien de bien méchant. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel?
Non, on s'en fout pas.
Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Abel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à Madrid, il n'y a pas eu de heurts, mais je ne sais pas si vous avez vu en Argentine. Ça a été un bordel monstre, hein, avec des scènes d'émeutes et tout. Et moi, quand j'ai regardé.
Comme sur le terrain.
Exactement. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien, c'est pas toujours les mêmes, entre guillemets. Donc voilà, c'est plus une question de mentalité, de conditions sociales.
Mais ils ont une façon très passionnée, les Sud-Américains, pour célébrer le football.
Ils sont surtout voyous sur le terrain.
Oui, voilà. Mais ça fait du bien quand même de voir. Ça fait du bien.
Ah, c'était des racailles sur le terrain.
Quoi?
C'était
juste un jeu un peu musclé.
J'ai vu le match. Un peu musclé. Ah oui, c'est vrai, tu es tellement fan de Milley.
Un peu viril.
Que tu es déçu.
Milley qui n'est pas venu d'ailleurs voir le match.
Exactement. Et Trump qui a voulu rester sur le podium avec les Espagnols.
Non mais pardon, c'est vrai que c'est étonnant parce que, excusez-moi, mais quand le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, Paris est à feu et à sang, c'est un carnage. Quand l'équipe espagnole revient à Madrid, il y a un monde dingue et ça se passe bien. On n'a pas vu d'heures importantes entre policiers et jeunes ou moins jeunes rassemblés. On n'a pas vu de
magasins pillés. Il y a un rapport à l'autorité qui est différent, tout simplement. Tu blagues pas avec la police en Espagne. Hein.
Ah bon,
tu t'amuses pas avec la police en Espagne.
Pourquoi on n'est pas pareil, nous?
Surtout parce qu'on a laissé faire. Amuse-toi avec un policier à Madrid, tu vas voir.
Et la police dite municipale est aussi répressive au sens efficace, pas au sens négatif. Donc effectivement, il y a une culture.
Il faudrait s'inspirer de la police espagnole.
Il y a une culture de l'ordre à Madrid.
Bon.
Barbara?
Oui, non, je trouvais que c'était agréable de voir tous ces Espagnols, c'est pas seulement des Madrilènes, parce qu'il y en avait dans beaucoup d'autres villes d'Espagne.
Oui, partout.
Tous ces drapeaux espagnols. Donc je pense que c'était pas l'Espagne de Pedro Sanchez qui était dehors, c'était vraiment l'Espagne, les Espagnols, fiers de l'Espagne. Ils ont d'ailleurs dit vive le roi, vive l'Espagne.
Ils ont été reçus par la famille royale.
C'était un peu plus agréable que ce que l'Espagne a donné à voir ces derniers mois.
En 2018 et en 98, pardon, c'était la célébration dans toute la France. Il n'y a pas eu de débordement.
Non, c'est vrai qu'en 98, ça s'est relativement bien passé. Alors, il y a eu cette voiture folle sur les Champs-Élysées parce que la personne a paniqué.
Non, mais il n'y a pas eu de pillage dans les magasins.
Il n'y a pas eu, effectivement, à l'époque.
Bon,
après, en 2018, c'était particulier. Le défilé sur les Champs-Élysées était très cadenassé.
Oui,
parce
mais le soir même de la victoire, ça s'est quand même relativement bien passé.
Le bus, souvenez-vous, en 2018... Il accélérait parce que Emmanuel Macron attendait les joueurs de l'équipe de France et donc le défilé sur les champs à 150 quasiment
avec Alexandre Benalla qui avait pris la coupe. Voilà,
ça avait été quand même assez scandaleux.
Bon, les GG, tiens, Didier Deschamps qui a dîné avec Emmanuel Macron hier soir.
Tout à fait.
Bon. Les GG, c'est ce qu'on appelle de la curiosité morbide. Le maire de Malioque dans le Tarn a dû prendre un arrêté pour interdire les badauds d'accéder au terrain où les ossements de Delphine Jubilar ont été retrouvés. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Oh bah non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
On s'en fout complètement.
Certains étaient même venus avec des pioches et des pelles. C'est ce que raconte le maire à nos confrères d'ici. Barbara.
Non, mais moi, je pense qu'il y a des gens, faut non seulement les empêcher de venir, mais il faut aussi avoir un petit entretien avec un psychiatre, hein, parce que franchement,
santé
faut vraiment,
mentale.
Non, mais faut avoir un sacré grain pour venir. Alors avec des pelles, là, on est carrément dans au-delà du sordide.
Bah, ils se prennent pour des policiers.
Mais ils se prennent pour je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est un lieu. C'est, je vais pas dire que c'est une sépulture parce que
avis,
non, Dieu merci, c'est pas encore sa sépulture. Mais
ouais.
Oui, ben ça m'a fait penser donc au personnage de Marina Foïs dans le film de Barbac, qui passe sa vie à regarder Faites entrer l'accusé. Et qui devient complètement dingo parce que je dis
ça. C'est à cause de Demi Crisette.
Mais oui. Non, mais moi je merci regarde Dominique. Énormément de films sur les serial killers et toi, donc c'est pas le problème. J'adore les documentaires sur ce genre de choses. Mais enfin, ça me viendrait même pas à l'esprit de prendre ma voiture.
Ah bah, je suis
parce qu'il faut anticiper le truc. Tu prends ta voiture, tu dis ouais, je vais aller regarder là où il l'a enterré. Mais en fait, c'est absolument atroce. Je trouve vraiment qu'il y a des gens qui ont un petit.
Mais ça montre toujours ce basculement de l'inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un lieu morbide peut devenir potentiellement un lieu de pèlerinage. C'est ça qui est terrible. Ouais. Avant, on allait dans des lieux de pèlerinage, dans des lieux historiques, dans des lieux qui nous font du bien. Aujourd'hui, la mort attire, en fait. Donc, il y a toujours eu des tarés comme ça, mais je le redis toujours, cette culture du buzz, les réseaux sociaux amplifient tout ça. Est-ce qu'on a l'habitude de voir sur Snapchat
les réseaux sociaux.
Évidemment, mais j'ai dit, ça amplifie aujourd'hui. Ouais. Je pense pas que même il y a 10-15 ans, les gens... Il y aurait eu deux, trois fous, mais pas autant.
Rappelez-vous, là, au Vernet aussi, il y avait des gens qui venaient pour voir le village.
Ça a devenu un lieu touristique
où Émile avait été retrouvé. Bah franchement, les gens ne sont pas nets.
Les masses médias agissent sur les personnes faibles, ils veulent être dans l'actu.
Oui, avec leur pioche. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent quasiment pour.
Ils veulent être dans
l'actu. Essayer de trouver.
Avoir un morceau d'os, limite, pour aller le revendre au marché noir. C'est incroyable, quoi.
Les GG, le bilan des fêtes de Bayonne, tiens. 51 interarrestations, dont 2 pour agression sexuelle lors des 5 jours de festivités qui ont réuni 1 million de personnes, quand même. 30 personnes ont été placées en garde à vue. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Emmanuel ?
Sauf ton respect, oui, on s'en fout.
Ah bon ? Ma chère Barbara.
Oh, je m'en fous, en fait.
Abel ?
Moi, je m'en fous pas. Pourquoi ? Parce que on fait semblant de découvrir que quand beaucoup d'hommes se réunissent, et c'est pas pour dire tous les hommes, malheureusement, il y a des risques d'agression sexuelle. Oui, je sais qu'il y avait plein de femmes. Mais quand beaucoup d'hommes sont réunis, tu as un risque d'agression. Plus l'alcool, on mange, on s'oublie, on veut oublier les problématiques. Il y a des risques d'agression sexuelle. Donc effectivement, là, il y a un chiffre qui peut sembler effarant. Je pense que chaque année...
Sur un million de personnes, ça reste quand même...
Évidemment, mais c'est comme dans tout.
Mais c'est lui passer la main aux fesses.
Oui, non, parce que l'agression sexuelle...
Ah, c'est pas une agression sexuelle.
C'est une agression sexuelle.
Les fesses de quelqu'un.
Non, mais c'est
quand même une agression sexuelle.
Non, mais on parle pas de viol, hein.
Emmanuel,
attends, faut me laisser répondre. C'est évidemment une agression sexuelle caractérisée, mais sur un million de personnes, deux personnes qui font ça, c'est dérisoire.
D'accord, donc on s'en fout de ces victimes. En fait, comme elles ne sont que deux, non mais je te laisse des
mots.
Ah, faut attendre le viol, faut attendre la pénétration. D'accord.
À l'heure des problèmes du monde, il y a
les policiers,
deux femmes agressées sexuellement.
Du coup, Abel, les policiers ont fait leur boulot parce qu'il y a eu des interpellations.
Ça peut être des hommes agressés sexuellement.
Mais oui, enfin, c'est plus rare. C'est comme les poissons volants. Ça existe, mais enfin, c'est pas la majorité de l'espèce. Mais
ceci dit, si t'as Barbara dans la foule, on sait pas.
Il y a, après il y a quand même quelques années de ça, en 2023-2024, il y a eu des morts. Hein.
Oui.
Il y a eu des morts. Voilà. Et donc, on voit quand même, c'est ce que dit la préfecture, dit effectivement, il y a toujours des faits de délinquance, mais que quand même, ça s'est plutôt bien passé par rapport au nombre de personnes réunies. Il y a 800 policiers quand même mobilisés, hein, c'est pas rien. Ils sont mobilisés d'ailleurs toute la journée, toute la nuit. Il y a aussi ceux qui ont été pris en charge parce que se sont blessés légèrement. Il y a peut-être eu des bagarres et autres. Mais bon, quand tu gères une telle foule,
oui, le risque zéro n'existe pas.
Une
c'est
telle
sûr.
Foule et une telle alcoolémie, parce que c'est moi à mon sens, le vrai problème en règle générale de cette société, c'est le niveau d'alcoolisme.
Vous aviez dit que vous en foutiez. De toute façon.
Bientôt, la haute autorité de santé demandera le vaccin pour participer à la fête.
Allez, dans un instant, on va continuer de débattre de l'actualité. Sébastien Chenu, le député RN. Vice-président du parti, a confirmé que si Marine Le Pen était élue présidente de la République, elle organiserait un référendum sur l'interdiction du port du voile dans les bâtiments publics. Alors là, il y a une petite reculade du côté du RN, parce qu'au départ, c'était dans tout l'espace public, la rue, y compris. Visiblement, comme juridiquement, c'est pas sûr que ça passe. On recule un peu du côté du RN. Visiblement aussi, ils sont pas d'accord entre eux, entre Marine Le Pen et Bardella. On va tout vous raconter, mais est-ce qu'il faut effectivement interdire le port du voile dans les bâtiments publics? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.